Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 3 septembre 2024, en direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. En RDC, 5 civils et 5 soldats de l'armée ont été tués dimanche dans une attaque armée. En Tunisie, le candidat à la présidentielle, Ariachi Zamel, a été placé en garde à vue. Un ex-responsable des gardes-côtes en Libye a été abattu dimanche à l'ouest de Tripoli. La Chine accueille depuis hier des dirigeants africains pour 5 jours de sommet destiné à approfondir les liens avec l'Afrique. Et dans notre partie magazine, les migrants qui affluent à la frontière sud des États-Unis font face à plusieurs écueils. Nous nous rendrons dans le désert de l'Arizona pour plus de détails.
We're putting on band-aids.
Ce que nous faisons, c'est de soulager dans l'immédiat. Nous adorons apaiser. C'est une aide temporaire, mais tout le processus nécessite ce que j'appellerais une chirurgie reconstructive.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En RDC, 5 civils et 5 soldats de l'armée ont été tués dimanche dans une attaque menée par des hommes armés. Attaque survenue dans l'Ituri, une province en proie à des violences meurtrières contre les civils. Mouamadou Oumfa.
Dimanche vers 20h30, heure locale, 18h30 GMT, des hommes ont surgi dans un bar de la ville de Nizi, à 20 km au nord de Bounia, la capitale de la province de l'Ituri, selon des sources sécuritaires et locales. Les assaillants ont tué un chef coutumier et 3 autres personnes, dont un représentant de la société civile, a déclaré le colonel Rufin Mapela, administrateur policier de Djougou, ajoutant qu'un autre civil, touché par balle, est décédé après avoir été dépêché à l'hôpital. Selon le colonel Mapela, l'attaque a entraîné l'intervention des FRDC, basés dans la localité de Nizi, et 5 parmi eux sont morts. Les assaillants ont tendu une embuscade aux militaires. 500 morts, a confirmé le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FRDC dans la province de l'Ituri. Les premiers indices nous montrent clairement qu'il s'agit des miliciens Zaïre qui ont commis ce crime, a-t-il ajouté. La milice Zaïre est un groupe d'autodéfense communautaire créé en 2019 qui affirme défendre les intérêts de la communauté Emma contre une tribu rivale, les Lendou.
La junte au pouvoir en Guinée a suspendu lundi la délivrance des agréments aux associations et aux organisations non gouvernementales à l'approche d'une manifestation de l'opposition coïncidant avec le 3e anniversaire de l'avènement des militaires au pouvoir. Cette délivrance est suspendue pour 4 mois en raison des actions de troubles à l'ordre public menées sur le terrain par plusieurs ONG et mouvements associatifs, a dit le ministre de l'administration du territoire. L'opposition appelle à manifester jeudi pour notamment le retour des civils au pouvoir et la libération de 2 acteurs de la contestation, Fonike Mengue et Mamadou Biloba, disparus depuis leur arrestation le 9 juillet. Les groupes rebelles nigériens du Front patriotique de libération et maliens du cadre stratégique et permanent se sont rencontrés fin août dans le nord du Mali pour renforcer leurs relations. C'est ce qu'indique ce lundi le CSP. Les 2 groupes luttent contre les régimes militaires au pouvoir à Bamako et Niamey, alliés au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle confédération constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'AES a tourné le dos à la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et s'est rapprochée politiquement et militairement de la Russie. En Tunisie, le candidat à la présidentielle, Ariachi Zamel, a été placé en garde à vue après son interpellation lundi pour des soupçons de falsification de parrainage. Alexandrine Hollognon.
Après une journée d'interrogatoire, le parquet de Manouba a décidé de placer le candidat à la présidentielle du 6 octobre en garde à vue pendant 48 heures, en même temps qu'un responsable de sa campagne électorale. Le bureau du parquet n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Ariachi Zamel avait été emmené à l'aube à un poste de la garde nationale à Tebourba, à environ 40 km à l'ouest de Tunis, selon un membre de son équipe. La trésorière de son parti avait été interpellée le 19 août pour avoir falsifié des parrainages pour le compte de Zamel. Elle a été relâchée le 29 août en attente d'un procès fixé au 19 septembre, selon le site en ligne Business News. Zamel fait partie des trois candidatures retenues dans une liste définitive dévoilée lundi par l'autorité électorale Izier pour la présidentielle du 6 octobre, aux côtés du président Kais Saied, qui brigue un deuxième mandat, et de Zourahir Magzaoui, un ancien député de la gauche panarabe. Le président sortant, élu démocratiquement en 2019, est accusé par ses détracteurs et l'opposition de dérives autoritaires depuis son coup de force du 25 juillet 2021, lors duquel il s'est octroyé les pleins pouvoirs.
En Libye, un ex-responsable des gardes-côtes, Abed al-Rahman Milad, connu pour avoir été un baron local du trafic de migrants, a été abattu dimanche à l'ouest de Tripoli. C'est ce qu'ont indiqué hier lundi plusieurs responsables. Le point avec Ginny Niwa.
J'ai appris avec grande tristesse le crime qui a visé le major Milad et j'ai chargé le ministère de l'Intérieur d'ouvrir une enquête urgente, a déclaré sur X le chef du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli, Abdelhamin Beba. Il a loué ses efforts pour la réouverture de l'académie navale après plus de 10 ans d'interruption. Aucune précision sur les motivations politiques ou crapuleuses de l'assassinat n'a été donnée. Personnalité controversée, le major Milad, surnommé Albidja, est un ancien baron local de trafic en tout genre, notamment quand il était chef des gardes-côtes à Zawiya, situé à 45 km à l'ouest de Tripoli. Milad faisait l'objet d'une notice d'Interpol à la demande d'un comité du Conseil de sécurité de l'ONU qui, en juin 2018, avait sanctionné 6 chefs de réseau de trafiquants de migrants en Libye.
Toujours en Libye, l'ONU a annoncé avoir tenu des pourparlers lundi avec les deux exécutifs rivaux en Libye, dont les différends ont débouché sur une crise de la gouvernance de la Banque centrale et des craintes autour du secteur pétrolier. La mission d'appui de l'ONU en Libye a expliqué avoir rencontré séparément les parties pour des discussions marquées par un dialogue ouvert et honnête selon un communiqué. L'Afrique est confrontée à un fardeau disproportionné du fait du changement climatique et des coûts d'adaptation, a déclaré l'Organisation météorologique mondiale dans un nouveau rapport publié lundi. L'Afrique du Nord a connu le réchauffement le plus rapide. La ville d'Agadir, au Maroc, a atteint une nouvelle température maximale de 50,4 degrés. D'autres pays ont connu des précipitations extrêmes entraînant des inondations.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine accueille depuis hier des dirigeants africains pour 5 jours de sommet destinés à approfondir les liens avec l'Afrique. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Des banderoles accrochées à Pékin proclament que la Chine et le continent africain s'unissent pour un avenir meilleur. La Chine, deuxième économie mondiale, est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Le commerce bilatéral a atteint 167,8 milliards de dollars au premier semestre 2024, selon les médias officiels chinois. Le président chinois Xi Jinping a rencontré certains chefs d'État dans le cadre de rencontres bilatérales. Il a reçu le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. La Chine est présente en RDC, où elle souhaite exploiter les ressources naturelles, notamment le cuivre, l'or, le lithium et les terres rares. Une coopération entravée parfois par l'insécurité. En juillet, au moins 4 Chinois ont été tués dans une attaque en Ituri. Les dirigeants de Djibouti, où se trouve l'unique base militaire chinoise à l'étranger, ainsi que ceux de Guinée équatoriale, du Nigeria, du Mali et d'autres pays sont aussi arrivés à Pékin dimanche et lundi en Chine. Les prêts accordés par la Chine aux pays africains l'an passé, d'un montant de 4,61 milliards de dollars, ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 5 ans, selon une base de données réalisée par l'Université de Boston. Les principaux pays emprunteurs étaient l'Angola, l'Éthiopie, l'Égypte, le Nigeria et le Kenya.
À l'occasion de la fête américaine du travail, Joe Biden et Kamala Harris ont participé ensemble lundi à un événement de campagne en Pennsylvanie, un état pivot susceptible de faire basculer le scrutin présidentiel. Joe Biden, qui bénéficie toujours d'un certain capital de sympathie auprès de l'électorat blanc ouvrier, a présenté sa vice-présidente Kamala Harris comme son digne successeur. De son côté, le candidat républicain Donald Trump n'avait pas prévu d'événement de campagne lundi. Il se rendra notamment cette semaine dans le Wisconsin, un autre état clé où il parlera d'économie. Le président américain Joe Biden estime que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'en fait pas assez pour parvenir à un accord en vue de la libération des otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Une déclaration faite ce lundi alors qu'en Israël, la pression monte sur le gouvernement après la découverte de 6 corps d'otages. Au Venezuela, Edmundo González, le candidat de l'opposition qui revendique la victoire à la présidentielle, est visé depuis lundi par un mandat d'arrêt de la justice vénézuélienne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. À présent, la Minute Éco avec Alexandrine Wolognon.
Le Ghana augmentera le prix garanti par l'État payé à ses producteurs de cacao de près de 45% pour la saison de récolte 2024-2025 afin d'aider à augmenter leurs revenus et de dissuader la contrebande de fèves hors du pays. La hausse des prix à la mi-saison est intervenue après que le principal producteur de cacao, la Côte d'Ivoire voisine, a augmenté son prix à la production à 2,55 dollars par kilogramme pour la récolte intermédiaire d'avril à septembre de la saison 2023-2024. Les fortes pluies qui se sont abattues la semaine dernière sur la plupart des régions productrices de cacao de la Côte d'Ivoire ont stimulé le développement de la récolte principale d'octobre à mars. Les agriculteurs ont déclaré à Reuters qu'ils commenceraient à récolter le cacao à partir de la semaine prochaine, mais qu'ils ne vendraient qu'une petite partie de leurs fèves. Une plus grande partie sera stockée jusqu'à l'annonce du nouveau prix à la production qui devrait être augmenté au début du mois d'octobre par rapport au prix actuel de 2,55 dollars par kilogramme. L'Arabie Saoudite et la Libye ont financé l'achat de cargaisons de gaz d'une valeur d'au moins 200 millions de dollars pour aider l'Égypte à atténuer sa crise énergétique cet été. L'Égypte a besoin d'environ 2 milliards de dollars de gaz pour couvrir la demande estivale jusqu'en octobre. Mais une crise des devises forte a provoqué un manque de fonds pour couvrir entièrement les importations de gaz naturel liquéfié.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Des nouvelles des Jeux paralympiques avec le tournoi de Cécifoot.
Oui, 8 équipes réparties dans 2 groupes de 4 avec le seul pays africain en lice, le Maroc. Après avoir fait un match nul blanc devant l'Argentine, les Lions de l'Atlas ont battu hier le Japon sur le fil 1-0 et feront face aujourd'hui à la Colombie. Les Marocains gardent leur chance de qualification pour le tour suivant, selon notre consultant à Casablanca, Amin Birouk.
Après un premier match nul tout à fait face à l'Argentine 0-0, le Maroc champion d'Afrique en titre, et c'est avec ce privilège ou avec ce titre honorifique qu'il représente notre continent dans ce tournoi de Cécifoot. Pour la deuxième sortie, il y a eu une victoire contre le Japon à l'arraché, à 4 minutes de la fin du temps réglementaire sur un but contre son joueur japonais. Il faut dire que l'équipe du Maroc a raté beaucoup d'occasions de scorer. Il y a eu donc ce manque de réalisme, mais de l'autre côté, il y a une défense très solide qui a résisté aux quelques assauts désordonnés des joueurs japonais. C'est une belle victoire pour le Maroc qui se rapproche un peu plus des demi-finales. Il faudra assurer au moins le point du nul demain contre la Colombie pour pouvoir atteindre le dernier carré de la compétition.
Amin Birouk, joint depuis Casablanca.
Parlons à présent du mondial féminin des moins de 20 ans qui se joue en Colombie.
L'Afrique compte 4 représentants dans cette compétition dont le dénouement attendu le 22 septembre. Il s'agit du Cameroun, du Ghana, du Nigeria et du Maroc à suivre ce mardi Colombie-Cameroun. Le Cameroun qui avait arraché un match nul d'entrée samedi, 2-2 face au Mexique. Le Maroc a perdu 0-2 face au Paraguay pour son premier match et joue face aux États-Unis demain mercredi. Le Nigeria lui refait surface aussi mercredi après sa victoire d'entrée 1-0 devant la Corée du Sud. Notre correspondant Bouyikon au Bénin, Élisée Mpatine, fait le point.
Le Ghana a du pain sur la planche et il faudra quand même être fort mentalement afin d'aller chercher. En tout cas, les 4 représentants africains doivent augmenter le niveau de leur jeu puisque le Cameroun aussi a...
Justement, oui. Élisée, parlant du Cameroun, on va essayer de retrouver tout de suite Jules Valentin Ngoué, le Cameroun qui a arraché le match nul 2-2 face au Mexique samedi et le Cameroun qui va affronter dans la nuit de mardi à mercredi la Colombie, le pays hôte. Jules.
Le scénario de la rencontre contre le Mexique qui valorise en fait la prestation camerounaise dans la mesure où les Lions ont été menés d'entrée de jeu à la 3e minute et même à la mi-temps par 2-0 avec le but du break des Mexicaines qui sont en très grand progrès. Ben, en deuxième mi-temps, l'équipe camerounaise s'est reprise. Elle a pris le match à son compte et sa joueuse vedette, Naomi Eto'o, ramener l'équipe à flot et finalement et obtenu l'égalisation à la 85e minute.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Tunisie, des dizaines d'activistes ont manifesté hier lundi devant le siège de la commission électorale après que celle-ci a validé seulement 3 candidatures à la présidentielle du 6 octobre, dont celle de Kais Saied. 3 autres postulants ont vu leur dossier rejeté malgré une décision de justice de la semaine dernière. Les précisions avec Ginny Niwa.
L'autorité électorale en Tunisie a décidé lundi de ne maintenir que 3 candidats à la présidentielle du 6 octobre, parmi lesquels le président sortant Kais Saied, et d'exclure 3 autres postulants qui avaient été réadmis par le tribunal administratif la semaine passée. Des militants de partis d'opposition et des ONG ont manifesté devant les bureaux de la commission électorale. Oussem El Ami, manifestant tunisien.
Cette décision est sévère à tout égard et s'écarte de toutes les normes juridiques. Les décisions de l'Assemblée générale du tribunal administratif, qui sont définitives et sans appel selon la loi, doivent être respectées. Même en appel, ils ne peuvent être contestés, et moins encore par la commission électorale dont le rôle est uniquement d'appliquer ces décisions. Elle n'a pas de pouvoir discrétionnaire, elle n'a aucun pouvoir exécutif. Naturellement, cela a complètement décrédibilisé ces élections et marquer la sortie de l'état de droit, car à ce jour, la loi n'a plus aucune valeur.
L'opposition estime que la commission électorale n'est plus indépendante. Rim Majoub, parti Afek Tounes.
L'instance supérieure indépendante pour les élections décide aujourd'hui ce qu'elle veut et va même au-delà des décisions rendues par la plus haute instance judiciaire. Aujourd'hui, si nous ne pouvons pas appliquer les décisions du tribunal administratif et si une institution de l'État ne respecte pas les décisions du tribunal, quel message cela envoie-t-il aux citoyens ordinaires?
Kais Saied, le président sortant, Zouhair Magzaoui, un ancien député de la gauche panarabe, et Ayachi Zamel, chef d'un parti libéral, seront donc en lice. Monsieur Zamel a été interpellé lundi à l'aube pour des soupçons de faux parrainage dans son dossier de candidature, a indiqué un membre de son équipe de campagne qui a déclaré que l'arrestation vise à le distraire de sa campagne. Samedi, une centaine d'ONG, juristes et personnalités avaient appelé dans une pétition l'instance électorale à respecter les décisions du tribunal administratif en soulignant qu'elles étaient exécutoires et ne pouvaient être contestées.
De nouvelles recherches indiquent que les agriculteurs sont susceptibles d'augmenter considérablement leurs profits avec une simple paire de lunettes pour corriger tout défaut visuel. Mais des millions de personnes à travers le monde n'ont pas accès à ces soins de santé oculaire. Henry Ridgewell nous propose ce reportage. Le récit est de Jacques Aristide.
La culture du cacao est une tâche complexe. Les agriculteurs effectuent la pollinisation des plantes à la main en transférant de minuscules grains de pollen à des fleurs mâles aux fleurs femelles. Pendant des années, Juliette Adahi, 63 ans, propriétaire d'une plantation de cacao au Ghana, souffre d'un trouble de la vue qui lui fait voir flou.
C'était difficile de travailler dans ma ferme, de faire la pollinisation, de faire l'élevage.
Avec l'aide de l'association caritative américaine Vision Spring, Juliette a obtenu des lunettes pour l'aider à surmonter son trouble de la vision. Elle dit que cela a totalement changé ses journées de travail.
Avant de porter des lunettes, je pouvais obtenir 8 à 9 sacs de cacao par an. Mais avec les lunettes que j'ai maintenant, je peux travailler au champ et obtenir 12 sacs. Cela a donc vraiment amélioré mes moyens de subsistance.
Vision Spring affirme que la moitié des producteurs de cacao de la région d'Asanti au Ghana ont besoin de lunettes pour corriger leurs défauts de la vue. Une recherche menée au Bangladesh par l'ONG et l'Université Queen's de Belfast a montré que les lunettes peuvent augmenter d'un tiers les revenus des travailleurs ruraux, d'une moyenne d'un peu plus de 35 dollars américains par mois à plus de 47 dollars. Les lunettes elles-mêmes coûtent environ 6 dollars.
Un investissement très modeste dans la correction de la vue pour les agriculteurs, les artisans et les gens de métiers qualifiés génère un retour sur investissement assez massif en termes de revenus familiaux qu'ils sont en mesure de continuer à gagner. C'est l'un des rares moyens d'aide sur le plan du développement international qui peut être mis en œuvre pour augmenter les revenus des communautés agricoles et qui n'a pas encore été utilisé.
La productrice de cacao ghanéenne, Juliette Adahi, affirme que le revenu supplémentaire a aidé à payer l'éducation des membres de sa famille, ce qui les aide à augmenter leurs revenus futurs. La recherche a été publiée dans la revue PLOS ONE.
Certaines familles de soldats américains tombés au front ont exprimé dimanche leur soutien à l'ancien président Donald Trump après qu'il a été critiqué pour des photos et des vidéos prises dans une section restreinte du cimetière national d'Arlington la semaine dernière. La vice-présidente Kamala Harris, qui est également dans la course à la Maison-Blanche, s'est jointe à ceux qui ont condamné la visite de Trump et l'ont qualifié de coup politique. Un reportage de Veronica Balderas Iglesias de la VOA. Récit Blanche Sanou.
La candidate démocrate à l'élection présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris, s'est jointe aux critiques visant la campagne Trump. Les activités politiques dans cette section du cimetière sont strictement interdites par la loi fédérale et le règlement du Pentagone, ce qui a donné lieu à une altercation avec un employé du cimetière. Samedi, Kamala Harris a abordé la question dans un message sur la plateforme X.
Je vais être claire, l'ancien président a manqué de respect à un lieu sacré, tout cela pour un coup politique.
Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, s'est encore défendu samedi, affirmant qu'il était là-bas à l'invitation du parent des soldats morts dans une attaque terroriste pendant le retrait américain de l'Afghanistan en 2021.
Ils m'ont dit, vous savez, je ne suis pas surpris, je n'y avais jamais pensé. Monsieur, serait-il possible d'avoir une photo avec vous sur la pierre tombale de mon fils? J'ai répondu par l'affirmatif. Je ne le faisais pas pour... Je n'ai pas besoin de publicité. J'ai beaucoup de publicité.
La campagne de Trump a publié une déclaration et des clips vidéo dimanche par certaines familles Gold Star soutenant sa visite. Le sénateur républicain Lindsey Graham a été interrogé sur l'émission This Week d'ABC pour savoir s'il pensait que la campagne de Trump avait dépassé les bornes.
Je suis tout à fait d'accord pour que l'on examine ce qui s'est passé. Mais vous savez, ce qui est vraiment regrettable, c'est que ces familles aient dû aller rendre visite à leurs proches tombés au combat à Arlington à cause de l'incompétence de l'administration Biden. Si l'on ajoute à cela la montée du terrorisme et la rupture des frontières, un autre 11 septembre nous attend.
Lorsqu'il s'agit de sécuriser la frontière, la vision de Kamala Harris serait la plus efficace, a déclaré le gouverneur du Colorado, Jared Polis. On lui a demandé de préciser si elle inclurait la construction de murs et comment elle se compare à l'approche de Trump. Le démocrate Jared Polis était également dimanche sur ABC.
Le mur frontalier proposé par Donald Trump est un énorme gâchis et un gaspillage de l'argent des contribuables. Il a effectivement parlé d'un mur sur l'ensemble de la frontière plutôt que d'utiliser des barrières de différentes sortes de manière efficace. Ce que Kamala Harris préconise, c'est de sécuriser la frontière de la manière la moins coûteuse possible.
Mardi, la campagne de Harris lancera la tournée de bus pour la protection des droits reproductifs dont le coup d'envoi sera donné à Palm Beach en Floride. La campagne Trump-Vance organisera des événements mardi à Bristleton en Géorgie et à Mesa en Arizona.
Les migrants qui affluent à la frontière sud des États-Unis font face à plusieurs écueils. Dans le désert de l'Arizona en particulier, le manque d'eau peut être mortel. Mais une bonne samaritaine, Dianunan Postast, tient à la disposition des arrivants des cuvées d'eau pour étancher leur soif. Et cela à travers une association de volontaires. Jean-Roger Billon nous en dit plus.
Human Borders est l'une des nombreuses organisations de l'Arizona qui fournissent des points d'eau aux migrants pour se désaltérer. Elle a été fondée à l'été 2000 pour sauver des vies dans la chaleur brutale de l'été. Et ça, c'est le boulot de Diane Nounan Potast, 55 ans. Elle fait partie d'un réseau de bénévoles qui s'efforce de prévenir les décès dans le désert où de nombreux demandeurs d'asile et migrants ont perdu la vie.
Je me souviens d'une fois où il y avait un groupe de 300 personnes quand cette grande vague de demandeurs d'asile a commencé à arriver. Nous n'avions pas de camp à ce moment-là. Nous n'étions pas préparés à accueillir 300 personnes. Un jeune garçon, Felipe, était en train de mourir dans les bras de sa mère. Nous avons pu contacter le 911 et la police des frontières. Un hélicoptère est venu le chercher et il a survécu. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital de Tucson.
Chaque samedi avant l'aube, Diane Nounan Potast arrive au bureau de Human Borders à Tucson, en Arizona, pour charger des fournitures dans un camion équipé de 200 à 300 gallons d'eau, de générateurs et de tuyaux d'arrosage. À contre-courant de ses efforts pour aider ces migrants, les ONG ont du mal à comprendre la chasse à l'homme contre ces gens, pour la plupart désespérés. Les gardes frontières américains ont arrêté environ 57 000 migrants traversant illégalement au mois de juillet. Dan Lehner, qui travaille avec Salvavision et Tucson Samaritans, fait écho au profond impact émotionnel que ce travail entraîne.
C'est comme si quelqu'un vous arrachait le cœur. Oui, c'est une honte. Surtout quand on sait que mon peuple est directement impliqué dans cette affaire et qu'il l'est depuis longtemps. Et vous savez, c'est difficile. C'est difficile de comprendre que j'appartiens à ce genre de groupe de personnes.
En dépit des obstacles et des difficultés, Diane Nounan Potast n'a pas le cœur à abandonner dans son soutien aux migrants. Le nombre de migrants arrêtés a chuté depuis que le président Joe Biden a émis de nouvelles restrictions aux frontières en juin. Mais Nounan estime que les politiques récentes ne sont qu'une solution rapide à un problème à long terme.
Ce que nous faisons, c'est de soulager dans l'immédiat. Nous adorons apaiser. C'est une aide temporaire, mais tout le processus nécessite ce que j'appellerais une chirurgie reconstructive. Chaque jour, je me réveille sachant que nous allons en penser quelqu'un. Si je fais de la randonnée sur des sentiers en cherchant des gens, ou si je suis près du mur. Mais ce n'est pas la solution.
Aux États-Unis, l'immigration et la question de la sécurité à la frontière sud seront au cœur de la présidentielle de novembre prochain.
Dan de Fulbert, votre nouvelle émission tous les vendredis sur VOA Fulfull Day. Dan de Fulbert braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dan de Fulbert, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dan de Fulbert, en FM, onde courte et sur la fréquence 17 630 kHz sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dan de Fulbert, c'est à partir du vendredi 30 août 2024 de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Fulfull Day.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Rosine Mounezero à son micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.